Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La rentrée est désormais derrière nous. Nous reprenons peu à peu le rythme en cette fin d'été quasi caniculaire. On apprécie d'autant plus le soir venu d'aller écouter les concerts de piano jacobin sous les voûtes 8 fois centenaires du cloître. Ce cadre magnifique en plein centre de Toulouse, la 44e édition du festival que nous avons présenté la semaine dernière se poursuit jusqu'au 29 septembre. D'autres saisons vont reprendre dans quelques jours ou quelques semaines, notamment Toulouse Guitare lors du premier week-end d'octobre. L'actualité est double concernant cette saison puisque son fondateur et directeur artistique, le guitariste Thibaut Garcia, fait paraître un CD le 22 septembre sous le label Erato Warner Classic. Il est intitulé El Bohemio et est entièrement consacré à des pièces du compositeur paraguayen Agustín Barrios Mangoré. Vous en saurez plus en seconde partie d'émission sur ce disque. En attendant, voici mes deux invités du jour. Vous connaissez déjà le premier puisqu'il s'agit de mon fidèle complice Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Avec lui, je suis particulièrement heureux d'accueillir pour la première fois à Mélomanie Gaëlle Garcia, trésorière et chargée de communication de l'association Toulouse Guitare, avec qui nous allons vous présenter tout à l'heure la programmation de la saison 23-24. Mais tout d'abord, petit regard comme d'habitude sur l'actualité musicale récente. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Gaëlle, bonjour Serge, bienvenue aussi à tous les deux. Nous allons commencer donc par un petit retour sur l'actualité musicale de la semaine dernière, entièrement occupée par les premiers concerts de l'édition 2023 de Piano Jacobin, la 44e du festival fondé et toujours dirigé par Catherine Dargoubet et Paul-Arnaud Péjouan, notre invité de la semaine passée. Le concert d'ouverture a été donné le 6 septembre par Guiorgui Guigashvili. C'était une première à Toulouse pour ce musicien âgé de 23 ans et une découverte pour nous. Nous étions présents à cette soirée d'ouverture, Serge, et je crois pouvoir dire que nous avons été tous les deux très favorablement impressionné par la prestation de ce jeune pianiste géorgien à la personnalité musicale déjà très affirmée.
Ah oui, 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 absolument. Il faudrait quand même préciser que cette édition 2023 de Piano Jacobin renforce encore l'accent qui est mis sur l'émergence des jeunes talents. Et parmi les 17 pianistes qui sont invités cette année, il y a énormément de tout jeunes qui vraiment se livrent en quelque sorte auprès du public. Et donc ça, c'est une très belle chose. Alors effectivement, Guiorgui Guigashvili, qui est né à Tbilissi, en Géorgie, son nom l'indique bien, hein, eh bien, il ouvrait cette édition avec un programme un peu ahurissant tout de même. Hein, un programme d'une exigence et d'un volume impressionnant. Alors disons qu'il a déjà un palmarès intéressant puisqu'il a eu le premier prix du concours international de piano de Vigo et puis il y avait des parrains intéressants.
Oui, la présidente était Martha Argerich.
Oui, rien que Martha Argerich. Et puis je crois que Nelson Frère faisait également partie du jury. Et puis ensuite il a eu un deuxième prix de la Arthur Rubinstein International Piano Master Competition, excusez-moi pour la longueur de ce titre, c'est vraiment quelqu'un qui a déjà un passé à son âge si jeune. Et donc, il a commencé ce concert avec les redoutables Kreisleriana de Robert Schumann. Enfin, c'est une œuvre monumentale, monumentale, de près de 40 minutes tout de même, hein, et qui s'est enchaînée sur la formidable sonate en si mineur de Liszt. Enfin, c'est ahurissant d'enchaîner.
Il avait mis deux monuments d'emblée au programme de ce concert.
Oui, oui.
Ce qui fait que je pense que beaucoup de gens ont dû se dire au moment où il a terminé la sonate en si mineur de Liszt que le concert était peut-être fini.
Oui, mais
loin de là.
Oui, pour la plupart des pianistes, ça aurait été le cas.
Hein, si on
oui,
peut
oui,
dire,
oui, exactement. Mais lui, non, il a enchaîné encore. Alors, ce qui étonne surtout dès les premières notes hein, de ces Kreisleriana, ce sont ces moyens techniques impressionnants. Impressionnants. Avec. J'ai trouvé dans son jeu des caractéristiques orchestrales et colorées. Et puis le jeu est très personnel, très imaginatif, ça tombe bien sur Schumann, hein, pour Schumann, et particulièrement contrasté. Alors, on peut dire que dans les Kreisleriana, les premiers accords sont complètement surprenants. Quitte à ce que parfois l'acoustique comme on le sait, très généreuse de la salle capitulaire du cloître, sature un peu. Dans les fortissimi, c'est tellement intense que c'est incroyable. Donc, ça a été une belle exécution, très personnelle.
Oui.
Vraiment, ça n'est pas du tout venant. Et avec ces contrastes expressifs, cette douceur poétique des plages poétiques, donc, en l'occurrence. Et donc, vraiment très convaincant. Ensuite, la sonate en si mineur de Liszt, bon, on connaît cette œuvre à la fois difficile, intense, pleine, elle aussi, de contrastes expressifs. Et donc, j'ai trouvé que, alors d'abord, il y avait une dynamique incroyable dans son jeu, la couleur de nouveau, et puis j'ai trouvé qu'il en exaltait surtout l'aspect diabolique. C'était vraiment un diable sur son clavier. C'était incroyable. Impressionnant là aussi, avec par moments des passages très, très lyriques, hein, très beaux. Hein. Après cette sonate, il a enchaîné sur une œuvre qui est un peu l'antinomique de cette sonate, qui sont les trois intermédies de l'opus 117 de Brahms. Alors là, c'est une œuvre crépusculaire, complètement, de fin de vie, et une œuvre très méditative. Et il l'a vraiment joué de cette manière-là, en y ajoutant une espèce de luminosité incroyable, notamment dans la Nate non troppo, et donc celui que le compositeur qualifie comme molto espressione. Et vraiment, il l'a fait avec beaucoup d'expression. Et puis, une sorte de résignation dans le troisième, hein, que je trouvais aussi très convaincant. Donc ça, c'était les trois pièces de Brahms. Alors, bien plus courtes, évidemment, toutes les trois, que n'importe laquelle des deux œuvres qui précédaient.
On avait basculé dans un autre monde. Oui.
Voilà, exactement. Et il a terminé par une œuvre rare, tout de même, une œuvre d'Alexandre Scriabine, qui est une sonate, la sonate pour piano numéro 9, qui est aussi appelée Messe Noire.
Messe Noire, oui.
Alors, ça dit tout ce que ça veut dire. Hein. Bon, c'est l'une de ses dernières œuvres, hein, de Scriabine. Donc, une œuvre...
Bah encore une œuvre crépusculaire. Hein.
Ah oui, crépusculaire, mais étrange. Alors, c'est une œuvre en un seul mouvement, mais divisée en 7 sections enchaînées. Il faut préciser qu'elle pratique quand même un langage nettement atonal. Et ça, ça n'a pas gêné l'interprète qui vraiment s'est approprié cette écriture avec, j'ai trouvé, intelligence et sensibilité. Et donc, avec un début d'une impressionnante lenteur, d'ailleurs, qui dérive vers des instabilités rythmiques et tonales, qu'il a vraiment assumé magnifiquement. Donc, explosion de couleurs, là aussi, plus que jamais, dans cette sonate qui terminait le programme initial de ce jeune pianiste. Alors, Le programme s'est quand même prolongé. Il a eu un énorme succès, il faut le dire.
Hein.
Il a été acclamé.
Dès l'entracte, d'ailleurs.
Ah oui, l'entracte. En fait, il n'y avait pas vraiment d'entracte.
Enfin, il est sorti, revenu, quelques minutes. Voilà, on peut pas
entre les deux premières heures,
oui,
d'ailleurs.
Enfin, elle est tellement longue, la première.
Voilà. Oui. Mais il a enchaîné le Brahms au Liszt sans interruption. Hein.
Il a tout enchaîné.
Donc, voilà. Et là, il est revenu sur scène pour un bis. Alors, là aussi... Un bis opposé à tout ce qu'il a joué.
On se demandait ce qu'il allait pouvoir jouer en plus après ça.
Ah bah, il a joué l'une des quelques 550 sonates de Scarlatti, donc laquelle je ne saurais pas vous dire.
Je pense que personne n'a su.
Mais bon, il a joué ça avec une grâce légère, hein, après tous les déchaînements qui ont parcouru les
œuvres
du début.
Alors, ce que certains peuvent lui reprocher, c'est que sa personnalité est tellement forte.
Oui.
Elle est parfois un peu écrasante.
C'est vrai.
Et qu'elle s'applique à toutes les œuvres qu'il joue, quelle que soit l'œuvre en question.
Oui.
Bon, après, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il a vraiment proposé quelque chose de très personnel.
Ah, complètement.
On adhère ou pas à tout.
Oui.
On a quelque chose à se mettre dans les oreilles.
Ah,
on a quelque chose à se mettre sous la dent. Mais voilà.
Et même la composition du programme était très intelligemment faite. Hein.
Oui,
donc,
bien sûr.
Donc, c'était très bien. Hein. C'était une belle idée, là.
Gheorghi Ghigashvili avait mis à son programme les trois intermédies opus 117 de Johannes Brahms. Nous l'avions écouté jouer le premier des trois la semaine dernière. Et bien voici le deuxième.
Thank you.
le deuxième des trois intermezzi opus 117 de Johannes Brahms, interprété par Gheorghi Gigashvili, une des pièces jouées par le jeune pianiste géorgien lors du concert d'ouverture de Piano Jacobin 2023, c'était mercredi dernier, un musicien que nous aurons plaisir à réentendre à Toulouse, qui devrait être le cas dans les années à venir. Fin de cette courte première partie d'émission, on se retrouve dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Nous revoici à l'antenne avec mes deux invités, Serge Chauzy et Gaëlle Garcia, trésorière et chargée de communication de l'association Toulouse Guitare, que nous recevons donc pour la première fois à Mélomanie. Et pour ceux qui ne sauraient pas ou ne l'auraient pas encore deviné, Gaëlle est bien la mère de Thibaut Garcia. Jules, votre mari, est le président de Toulouse Guitare. Tout ça, ça nous rappelle que Thibaut n'est pas venu par hasard à la guitare, parce que c'est une véritable histoire de famille chez les Garcia. En fait, vous en jouez tous, Jules, Thibaut, et vous-même, Gaëlle.
Oui, tout à fait. Enfin, je ne joue plus actuellement, mais j'en ai joué longtemps, adolescente, et jusqu'à mes 22 ans. Et nous nous sommes rencontrés avec notre guitare, en fait. C'est la musique qui a fait que, voilà, on s'est rencontrés. Et
avec Jules, vous voulez
avec
dire.
Jules. Et voilà, cet amour de la guitare et de la musique, nous l'avons, donc nos enfants en héritent aussi. Et puis on le partage surtout.
Parce que j'imagine qu'on écoutait les grands guitaristes à la maison depuis que votre couple s'est formé. Et donc Thibaut a grandi dans un foyer où l'on baignait presque en permanence dans des airs de guitare venus d'un peu partout.
C'est vrai, on jouait de la guitare, tout répertoire réuni. Jules, je me souviens, jouait déjà à la cathédrale, qui était un morceau...
D'Agustín Barrios Mangoré, dont nous allons parler dans quelques minutes.
Absolument magnifique. Et on jouait beaucoup de guitare d'accompagnement avec du chant et en groupe. On faisait ça facilement, régulièrement. Et ça a continué tout le temps, en fait, avec les enfants, avec les neveux, avec les amis, et ça continue.
Et donc, il était logique, non seulement que Thibaut lui-même se mette à la guitare pour faire ensuite le parcours et la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui, mais quand il était question de créer une saison dédiée à la guitare à Toulouse, ben, tout naturellement, la famille entière s'est investie dans le projet, évidemment.
C'est vrai que Thibaut a eu cette idée-là, Jules l'avait envie depuis longtemps de créer quelque chose sur la guitare. Moi, la guitare, je suis forcément, et c'est une manière pour nous de faire vivre la guitare d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on peut jouer de la guitare, on la partage ensemble, mais là, j'ai l'impression qu'on la fait vivre vraiment et qu'on la développe pour tout le monde et sans frontières. Et ça, c'est une belle aventure.
Une chose qu'on peut souligner qui est importante, c'est que vous avez reçu dès le début, bon, non seulement le soutien de la mairie de Toulouse, mais aussi celui du conservatoire à rayonnement régional, dont Thibaut a été un des élèves aujourd'hui les plus célèbres, et notamment de Benoît Albert, qui est un peu conseiller artistique de la saison. Hein.
Oui, de suite, quand on a voulu créer cette association, on s'est adressé au professeur du conservatoire qui pouvait développer tout le volet pédagogique. Et la rencontre a été facile et on continue à construire et à travailler ensemble. Enfin, je dis travailler, mais en fait, c'est plus partager des moments sympathiques autour de la musique pour créer quelque chose. Et il y a vraiment une communication qui se fait facilement. On communique, on s'enrichit, on apprend dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on apprend aux autres et on apprend nous-mêmes. Et Benoît Albert, effectivement, nous porte énormément. C'est le lien avec les jeunes élèves qui sont invités à faire les premières parties. Et de là, toute cette aventure s'enchaîne parce que ces jeunes qui font les premières parties, petit à petit, ça les nourrit. Et ils passent des concours nationaux, internationaux, ils montent dans des écoles supérieures, dans des pôles supérieurs, et j'ai l'impression qu'ils sont nourris aussi, ils sont très heureux.
Ça les aide à grandir, et puis ça leur donne confiance, évidemment, parce qu'on leur fait confiance.
C'est une initiative extraordinaire, formidable.
Unique à Toulouse, en son genre.
Oui, unique, je n'en connais pas d'autres. Donc, qui donne aux tout jeunes, aux débutants, aux élèves, l'occasion de se confronter à un public. Et ça, c'est pas toujours facile pour les jeunes.
C'est vrai.
On peut être à l'aise dans une classe au conservatoire et puis avoir quelques problèmes lorsqu'on a des centaines d'auditeurs devant
soi.
Et oui,
d'ailleurs pour certains musiciens, c'est un blocage très difficile à faire sauter.
Hein. Oui. Et là, grâce à cette initiative qui se renouvelle depuis la première saison, précisons que c'est la sixième saison.
Oui, c'est la sixième saison.
Oui, donc c'est chaque fois une belle découverte que d'entendre ces jeunes musiciens dans des programmes toujours intéressants et variés même. Ils ne jouent pas très longtemps, mais c'est varié.
Oui, et je pense que c'est un gros travail pour eux de faire ce concert qui est sur scène professionnelle devant un public.
Avant un très grand musicien, parce qu'ils peuvent se dire, on va me comparer avec quelqu'un qui est évidemment beaucoup plus avancé dans la carrière que moi.
Oui, et c'est très révélateur pour eux, en fait.
Eh bien, nous allons nous plonger maintenant dans la programmation 2023-2024 de Toulouse Guitare, la sixième. Donc, cette année, vous avez innové pour lancer la saison avec une triple proposition, rien moins que trois concerts les 6, 7 et 8 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ça commence le vendredi 6 avec le concert du guitariste italien Lorenzo Michelli, un musicien que l'on a déjà entendu à Toulouse Guitare, mais c'était en duo, le solo duo, c'est ça ?
C'est ça. Tout à fait.
Alors, c'est pas très... Il y a deux ans,
deux, trois ans.
Alors, quel programme a-t-il nous joué, Lorenzo Michelli? Programme inattendu, je dois dire.
Alors, Lorenzo Michelli va nous jouer du Schubert, donc du romantique, du Ribet, du Migaud et du Claude Debussy. Et ensuite, il va nous jouer du Mario Castelnuovo Tedesco, le Capriccio de Goya, opus 195. Et pour finir, une pièce de Benjamin Britten, donc un répertoire contemporain, le Nocturnal After John Dolan, opus 70.
Quand je disais que c'était inattendu, varié, éclectique, et puis on traverse les siècles, là.
Exactement, absolument.
Oui, parce que, Franz Schubert, ce qu'il va jouer, si j'ai bien la bonne information, c'est La jeune fille et la mort, une transcription de Ferdinand Rebet. Donc, du Ferdinand Rebet, alors là, on est 20e siècle, on arrive au 20e siècle. Georges Migaud. Moi, je n'ai jamais entendu Georges Migaud au concert, vous, Serge.
Non, effectivement, non.
Et le titre de ce qui va être joué, c'est pour un hommage à Claude Debussy. Après Claude Debussy, il y aura les Minstrels, transcription de Mario Castelnuovo Tedesco, et donc Mario Castelnuovo Tedesco, les Caprichos des Goya, opus 195, il y aura trois pièces, la 12, la 13 et la 22, et Britten pour finir, je ne sais pas ce que vous en pensez, Serge, mais on a hâte d'entendre ça.
Une mosaïque colorée.
J'ai hâte aussi.
Voici un extrait de ce programme que Lorenzo Michelli va jouer le 6 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines, Quien Mas Rendido, un des Caprichos de Goya de Castelnuovo Tedesco. Thank you. Quien Mas Rendido, le 13e des Caprichos de Goya de Mario Castelnuovo Tedesco, joué par Lorenzo Micheli, qui ouvre donc la 6e saison de Toulouse Guitare le vendredi 6 octobre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le lendemain, au même endroit, toujours à 20h, eh bien c'est Thibaut Garcia lui-même qui se produit et c'est une première à Toulouse Guitare. Il va donner un programme très largement inspiré du CD qu'il s'apprête à faire paraître prochainement, le 22 septembre pour être précis, sous le label Erato Warner Classic. Ce CD a pour titre El Bohemio et il est entièrement consacré au compositeur et guitariste paraguayen Agustín Barrios Mangoré. Mais voilà quelqu'un et une musique que l'on entendait souvent chez vous, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. On écoutait, on avait tous ces disques de musique qui venaient de tous les pays. Et Jules jouait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Du Barrios.
Et du Barrios en particulier. C'est vrai que le morceau La Cathédrale était un de ses morceaux favoris. Ça l'est toujours.
Et il est vrai qu'il est magnifique, donc. Oui.
Et effectivement, de l'entendre jouer par les uns les autres selon sa sensibilité et son expression, ça fait quand même partie des grands monuments.
Pour savoir ce qu'il y a dans ce CD et quelle relation Thibaut Garcia entretient avec Agustín Barrios Mangoré, le mieux est encore de lui poser la question. Il m'a gentiment accordé une petite interview, je vous propose d'écouter maintenant. Je lui ai d'abord demandé de présenter Barrios Mangoré et d'expliquer pourquoi ce compositeur a beaucoup d'importance pour les guitaristes classiques en général et pour lui en particulier.
Agustín Barrios Mangoré, c'est un incontournable pour tous les guitaristes et finalement c'est quelqu'un qui est pas si connu du grand public, alors que c'est une grande figure musicale au Paraguay, par exemple. C'est, on va dire, un peu le Chopin de la guitare. Moi, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, parce que il a une esthétique à la fois romantique, à la fois populaire dans sa musique. Et c'est un compositeur qui est né dans une famille de musiciens populaires. Donc jusqu'à, disons, ses 18 ans, il faisait que de la musique populaire. Et puis, il a rencontré des musiciens classiques à Buenos Aires, en Argentine. Et il s'est rendu compte qu'il avait envie de donner une écriture plus savante à sa musique, peut-être plus romantique, parce que lui, il était fan de la musique de Beethoven, de Schumann, de Chopin. Et donc, il a créé cette esthétique assez unique. Et j'espère que ça deviendra un incontournable, non seulement pour les guitaristes, mais aussi pour le grand public.
Je vais donner ses dates de naissance et de mort, 1885-1944, pour qu'on le situe bien dans le temps, donc paraguayen de naissance. Comment vous décririez sa musique? Alors vous l'avez déjà un petit peu fait, est-ce qu'on peut dire que c'est un mélange savant, certes, de musique populaire sud-américaine et de romantisme à la Chopin, à la Schumann?
Mais absolument, et d'ailleurs quand on regarde les pièces qu'il a écrites, il en a écrit à peu près, allez, on va dire autour de 300 pour la guitare seule. Il y a des pièces qui sont vraiment de la musique populaire, les danses paraguayennes, des choros. Il y a une pièce qui s'appelle Machiche et qui est inspirée du Brésil. Et là, on est vraiment dans la musique populaire pure. Et puis après, il y a des mazurkas, il y a des études qui sont pour le coup des esthétiques qui ressemblent plus à Chopin ou Beethoven. Donc on a ces deux pans qui parfois se rencontrent sur certaines pièces. Donc c'est assez intéressant d'entendre les deux. Je connais pas d'autres compositeurs qui proposent une esthétique aussi singulière que celle-ci.
Le CD que vous publiez donc le 22 septembre, qui va paraître le 22 septembre sous le label Erato Warner Classic, a été titré, intitulé El Bohemio, le bohémien. Pourquoi ce titre?
Alors c'est pas pour rien, c'est parce que Agustín Barrios, il était certes guitariste et compositeur, mais il était aussi poète. Et il a écrit un poème qui est en fait un autoportrait, qui s'appelle El Bohemio. Et d'ailleurs, dans cet album, vous trouvez le poème, parce que j'ai voulu partager aussi la complexité du personnage d'Agustín Barrios et enregistrer deux poèmes à lui, El Bohemio, qui donne le titre à l'album, et un qui s'appelle Profession de fe. C'est un ami à moi paraguayen, Orlando Rojas, qui les a enregistrés. Et donc, voilà, c'est un autoportrait où il explique, en fait, le personnage, il s'explique lui-même, et il raconte qu'en fait, il ne fait que voyager, il vit sans le sou, il vit d'amour et d'eau fraîche, il vit de musique pour l'amour de l'art. Donc voilà, ce bohémien.
Oui, c'est le côté bohème du personnage. Hein. Non pas qu'il était d'origine gitane, mais il avait ce côté bohème. Alors, ouais. Les pièces que vous avez choisies pour ce CD, combien y en a-t-il? Et puis, sur quels critères les avez-vous sélectionnées?
Alors, la sélection des pièces, c'est fait difficilement, parce que chez Barrios, il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres pour la guitare seule qui sont, pour moi, honnêtement, il y a vraiment tellement de bijoux dans ce répertoire que je voulais enregistrer beaucoup trop de pièces par rapport à ce qui rentre dans un disque. Pour vous dire, c'est assez simple. Et pour les choisir, j'ai dû Moi, je crois beaucoup à la notion d'équilibre quand on réalise un album, un programme de concert. Et j'ai dû jongler un peu entre les différentes atmosphères, ce qui était virtuose, ce qui était poétique, aussi ce qui était majeur, ce qui était mineur, ce qui était populaire, ce qui était romantique. Et finalement, avec tous ces critères-là, j'ai essayé d'équilibrer l'équation pour faire un objet qui décrive Barrios le mieux possible dans sa poésie, dans sa virtuosité. Donc voilà comment j'ai choisi les pièces. Et ça a été difficile parce qu'il y a des pièces que j'aimais, que j'ai pas pu mettre dans l'album. Mais bon, il faut faire des choix au bout d'un moment.
Oui, donc il y en a 16 sur ce CD. Est-ce qu'il n'y a que des pièces originales ou est-ce qu'il y a aussi quelques transcriptions ?
Bonne question, parce qu'il y a des transcriptions. Il se trouve que c'est un disque où il n'y a plus Barrios sans que ce soit que du Barrios. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ses compositions originales, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il était fan et un grand admirateur de la musique de Beethoven, de Schumann, de Chopin, que vous allez retrouver dans l'album, notamment avec un prélude de Chopin, Traumerei de Schumann, et ce magnifique premier mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven.
Thibaut Garcia nous présentait Agustín Barrios Mangoré et le CD El Bohemio qu'il a consacré à 16 pièces du compositeur paraguayen, CD à paraître le 22 septembre sous le label Erato Warner Classic. Concernant le programme du concert du 7 octobre, Gaël, est-ce qu'on y trouve uniquement du Barrios Mangoré et les pièces de ce CD ou s'il y en a quelques autres ? Alors il y a du Beethoven et du Chopin, je crois justement. Il me semble qu'il y en a, il y a deux pièces.
Hein. Oui, tout à fait, puisque c'est la période et ce sont ses inspirations. Donc ça permet d'étendre aussi. Souvent, Thibaut nous raconte des histoires et nous raconte une époque et ça élargit en fait toute cette ambiance.
Serge, je me disais, Thibaut, il a quelque chose de formidable, on le connaît depuis des années, donc je me permets de l'appeler par son prénom. D'une part, c'est un musicien exceptionnel, mais c'est quelqu'un qui cherche en permanence, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de la musique, à l'histoire des compositeurs. Bon, on vient de le voir dans cette interview.
Oui, absolument. Non, mais il a des idées, voilà, et il les défend magnifiquement, hein, ça c'est sûr. Hein.
Nous allons maintenant écouter un extrait du CD El Bohemio. Thibaut Garcia joue le prélude en do mineur d'Agustín Barrios Mangoré. Magnifique et très touchant, très émouvant, prélude en do mineur d'Agustín Barrios Mangoré, extrait du CD El Bohemio que Thibaut Garcia fait paraître, je le rappelle une nouvelle fois, le 22 septembre, sous le label Erato Warner Classic, et dont la quasi-intégralité, ou même l'intégralité, je pense, est au programme de son concert du 7 octobre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il y a donc un troisième rendez-vous lors de ce week-end d'ouverture, et c'est là vraiment la grande innovation pour Toulouse Guitare cette saison. Vous avez organisé un concert concert Nouvelle Génération, dimanche 8 octobre à 11h30, toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines. Qui sont les membres de cette nouvelle génération de guitaristes et d'où viennent-ils? Ben d'un peu partout. Un peu partout en France.
Oui, tout à fait. On a organisé ce concert pour donner la scène, justement, aux pépites de demain, comme on les appelle. Et ils viennent de toute la France. Ce sont 40 étudiants qui viennent des pôles supérieurs de France et aussi du Conservatoire National Supérieur de Paris. Ils viennent aussi avec leurs professeurs et il va y avoir 3 jours pour eux d'organiser autour de conférences, de masterclass, de périodes de répétition et de travail, pour préparer ce concert, pour préparer leurs morceaux, pour échanger. Il y a aussi une exposition de 3 luthiers, tout ça sur 3 jours. Et donc le concert qu'ils vont nous donner, ce sera le dimanche, donc le...
En fin de matinée, 11h30. Hein,
11h30, ouais, voilà.
Le 8 octobre.
Donc un horaire facile, je pense, pour tout le monde. Venez les voir parce que ce sont vraiment les pépites de demain. Et ce qu'ils vont nous produire va être assez nouveau, en fait. Un week-end de rencontres comme ça n'est jamais arrivé pour le moment.
Oui, c'est unique en France comme initiative. Hein.
C'est unique en France.
C'est une concentration de jeunes guitaristes.
À notre connaissance, c'est unique. C'est un projet qui est né de la rencontre de LISDAT, de Nadine Laurence.
Ah, on parlait de Pôle supérieur, LISDAT. On en a un à Toulouse, c'est LISDAT.
Voilà. Et Nadine Laurence a rencontré Jules et Thibault lors de nos concerts. Il y a de ça donc quelques années, et de là est né de suite ce projet. C'est-à-dire que ça fait bien 3-4 ans qu'ils en ont parlé seulement. Et après, le temps a passé, chacun a cherché un peu comment on pouvait faire. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, ce week-end arrive, le 6, 7 et 8 octobre. Et c'est quand même un très grand événement, puisque tous les pôles supérieurs répondent présents. Donc ça fait une vingtaine de profs qui vont dispenser des masterclass à d'autres élèves de d'autres Pôle supérieur de France, et ça va faire une vraie...
Et en plus, je crois qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, tous ces gens-là. Enfin, il n'y avait pas de relation entre les différents pôles supérieurs.
C'est ça, et je crois que c'est ce qui a fait qu'ils ont tous répondu présent, parce qu'ils ont trouvé que l'idée était vraiment très très bien, et tous viennent. Et ça, c'est une grande satisfaction, parce qu'en tant qu'organisateur, on est content.
Bah oui, que les gens aient répondu à votre appel, parce que c'était pas écrit, ça, que ça allait fonctionner à ce point-là.
Et sans défection, donc.
Non.
Ça, c'est formidable.
Ils viennent tous.
Donc, ça va se passer beaucoup à LISDAT, hein, tout ce qui est masterclass.
Voilà.
Les conférences aussi.
Alors, les conférences...
Non, à Saint-Pierre, je crois.
Les conférences seront à Saint-Pierre-des-Cuisines.
Alors, ce n'est pas public, par contre.
Hein. Non. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour les
initiés, si on peut dire, les
étudiants en pôle sup. Alors, il y a une conférence sur la guitare romantique d'Éric Pierre Hoffmann, et qui va parler de la naissance et de l'évolution de la guitare moderne, en fait. Et l'autre jour, il y a une autre conférence qui est de Antoine Fougeret sur le thème de la transcription et de l'arrangement. Vaste sujet pour les guitaristes.
Ah oui, effectivement. Et parce que beaucoup d'œuvres sont transcrites et arrangées. Hein.
Voilà,
le répertoire pour guitare existe, bien sûr, originellement, mais il y a aussi beaucoup de transcriptions.
Il y a un gros travail à réaliser. Les masterclass seront hébergés par les salles de LISDAT. Le travail personnel des guitaristes, ils seront accueillis par le conservatoire régional, dans les salles du conservatoire. Et les luthiers seront exposés soit à l'auditorium, soit à LISDAT. Et en fait, c'est cette association de LISDAT Conservatoire et Toulouse Guitare qui fait qu'on arrive à drainer toute cette organisation qui va être assez grandiose quand même.
C'est une formidable initiative et peut-être qu'elle se pérennisera dans le temps. En tout cas, on l'espère, ça ferait de Toulouse un peu la capitale de la guitare classique en France, au moins le temps d'un week-end. Je salue au passage, vous l'avez cité, Nadine Laurence, qui est la responsable pédagogique, je ne sais pas si c'est son titre exact, de la musique à LISDAT, donc le 11h30, le dimanche 8 octobre. Tous ces jeunes étudiants guitaristes vont se produire ou en petite formation de chambre,
tout
ou en soliste pour certains. Voilà, donc ça devrait être encore formidable. Je ne peux pas vous donner le détail des œuvres qui seront jouées, mais ce sera la surprise et ce n'est pas plus mal. Le concert suivant est programmé le vendredi 1er décembre à 20h. Ce sera la salle du Sénéchal cette fois-ci. Et il est donné par un jeune guitariste qui devrait faire ses débuts à Toulouse à cette occasion. Il s'appelle Raphaël Feuillâtre et je crois qu'il a été quelque temps le camarade de Thibaut Garcia au CNSM à Paris. Et c'est aussi un virtuose de la guitare, on peut le dire.
Oui, oui, tout à fait. Hein. Je crois qu'ils ont quelques années d'écart. Il a gagné le GFA, je crois que c'est 2018. Voilà, un très, très, très beau guitariste que nous avons rencontré très jeune aussi. Et on est très, très heureux de le programmer et de l'accueillir.
Oui, effectivement, il a 27 ans, il a 2 ans moins que Thibaut. On se rend compte, on en parle parfois tous les deux, Serge. Thibaut a même pas 30 ans et il fait déjà figure d'ancien.
Oui, presque. Oui.
C'est incroyable. Alors donc, Raphaël Feuillâtre va nous proposer un programme constitué en partie de son CD Visage Baroque, récemment paru sous le prestigieux label Deutsche Grammophon, tout de même une référence. Bon, il semble qu'il soit passionné par la musique baroque, Raphaël Feuillâtre, et il va nous jouer. Alors, il y a des pièces de Bach, Couperin, Dufli qui sont sur ce CD, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi des compositeurs espagnols ou sud-américains. Il y a Tárrega, il y a Llobet, Piazzolla, bien sûr, Barrios Mangoré. Tiens, encore lui. Et puis Dienz, alors là aussi c'est extrêmement varié comme programme. Et sur ce CD Visage Baroque, dans le programme de Raphaël Feuillâtre, il y a Les Barricades Mystérieuses, magnifique pièce composée par François Couperin, pour le clavecin à l'origine. Hein. Et là c'est un arrangement, vous avez parlé de lui tout à l'heure, d'Antoine Fougeret. On écoute tout de suite cette pièce sous les doigts de Raphaël Feuillâtre. Barricade Mystérieuse, pièce de François Couperin dans un arrangement d'Antoine Fougeret. Ensuite, rendez-vous le dimanche 28 janvier à 17h pour un retour à Saint-Pierre-des-Cuisines. Vous avez invité le duo Mélis, un tandem très connu dans le milieu de la guitare, formé par l'Espagnol Susana Prieto et le Grec Alexis Mouzourakis. C'est une grande chance là aussi de les avoir à Toulouse parce qu'ils sont célèbres et qu'ils se produisent dans le monde entier depuis plus de 20 ans, Gaël. Et en fait, ils sont basés en France. Ils enseignent à tous les deux au conservatoire de Strasbourg.
De Strasbourg, tout à fait. Ils vont faire partie donc, du week-end Nouvelle Génération également, et avec leurs élèves. Et effectivement, c'est une grande chance de les recevoir parce qu'on essaye aussi de varier les formations. Et un duo, c'est toujours autre chose. Et on est très, très heureux de les recevoir.
Ben, un duo qui fonctionne quand même depuis près d'un quart de siècle hein, ensemble. Ils jouent partout, quoi. Ils jouent un peu partout dans le monde. Le programme, c'est aussi assez inattendu parce que c'est français beaucoup, mais français baroque. Joseph-Nicolas Pancras-Royer, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ce compositeur. Antoine de Loyer, là aussi c'est à cheval, enfin c'est plutôt, c'est 1768-1840, on est sorti du baroque. Et on a Tchaïkovski, Les Saisons. Ça sera le mois de juin, le plus connu hein, des mois, des saisons là, de Tchaïkovski. Et puis, on aura aussi du Ginastera, des danses de Ginastera. Vous voyez, le programme va nous amener du baroque français à l'Amérique latine, en passant par la Russie. Aussi, c'est assez inattendu. Ben, on va écouter une des trois pièces d'Antoine Deloyer que va jouer le duo Mélis le 28 janvier. C'est le Rondo Allegretto du duo numéro d'opus 31 que nous allons écouter. Le Rondo Allegretto du duo numéro 2 opus 31 d'Antoine Deloyer, interprété par le duo Mélis, une des pièces au menu de leur concert du dimanche 28 janvier 17h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Petite rectification, apparemment, ils enseignent plutôt au pôle supérieur de Strasbourg,
voilà,
et non pas au conservatoire à rayonnement régional. Pour le concert suivant, vendredi 15 mars, toujours à 20h, nous revenons à la salle du Sénéchal avec encore une musicienne espagnole qui va se produire en solo. Elle s'appelle Margarita Escarpa. Elle est considérée comme une des plus grandes guitaristes actuelles. Elle mène une carrière internationale depuis des années maintenant, elle aussi. C'est formidable de pouvoir l'entendre à Toulouse, parce que c'est une première, je pense. Je ne sais pas si vous, Serge, vous avez déjà entendu de Margarita Escarpa à Toulouse. Je ne crois pas.
Non. Oui, je pense qu'on lui demandera confirmation, mais effectivement, c'est une grande chance de recevoir cette grande dame de la guitare qui va nous faire un répertoire espagnol, français, et des morceaux en hommage à Ida Presti.
Oui, alors Ida Presti, rappelons qui était Ida Presti.
Ah bah, c'était la compagne d'Alexandre Lagoya.
Et avec qui elle a formé un duo, formidable, très célèbre à son époque. Hein.
Le duo a fait vraiment progresser la pratique de la guitare et l'adhésion des publics à la guitare. Hein. C'est vraiment, il y a André Segovia d'un côté et puis le duo formidable.
Ida Presti, Alexandre Lagoya. Alors pour revenir à Margarita Escarpa, je vais préciser qu'elle a remporté plusieurs grands concours internationaux et elle enseigne, parce qu'elle aussi elle enseigne, alors non pas en France, mais à l'Université de Musique et des Arts de Vienne, ce qui classe quand même le personnage, hein, je veux dire. Ça veut dire que son enseignement est évidemment très recherché. Le programme, vous l'avez dit Gaëlle, il est extrêmement éclectique là aussi, parce qu'on a des pièces de Federico Moreno Torroba, des pièces de Juan Andrés de Mendoza, des pièces de Fernando Lobo, et puis du Rameau, du Poulenc, et donc du Ida Presti. Là aussi, ça va être un voyage extraordinaire. Hein.
Ouais.
On va écouter Margarita Escarpa interpréter une des deux valses vénézuéliennes d'Antonio Lauro. C'est au programme du concert du 15 mars à la salle du Sénéchal. C'est la première des deux, Carora. Thank you. Carora, l'une des deux valses vénézuéliennes d'Antonio Lauro, interprétée par Margarita Escarpa. La grande guitariste espagnole se produit donc à la salle du Sénéchal le vendredi 15 mars à 20h. Et puis dernier concert de la saison le dimanche 5 mai à 17h dans le magnifique cadre de la chapelle des Carmélites, où vous avez invité l'une des stars de la jeune scène baroque française, le luthiste et théorbiste Thomas Dunford. Et pour ma part, moi qui ai eu déjà l'occasion de l'entendre en concert et même de l'interviewer, j'en suis très heureux parce que c'est vraiment un magnifique musicien. Il va jouer du luth ou du théorbe, du luth je crois.
Je crois que c'est du luth.
A priori, c'est du luth. Je pense que ce sera un programme. Le luth, il se produit plutôt avec le luth. Le théorbe, il l'utilise notamment lorsqu'il joue avec les arts florissants de William Christie. Donc, c'est plutôt le luth, d'ailleurs, son instrument de base.
Oui.
Pour rappel, c'est le fils aussi, lui, de deux musiciens célèbres, Jonathan Dunford et Sylvia Abramovitz, deux gambistes, deux spécialistes de la viole de gambe. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va nous jouer comme programme, Thomas Dunford?
Eh bien, va nous jouer une époque baroque qui est tout à fait adaptée à ce lieu magique qui est la chapelle des Carmélites. Donc, il va jouer du Dolande, du Kasperger et du Purcell.
Bon, là, on est en plein, effectivement, mais même dans le baroque un peu ancien.
Oui.
Kasperger, je précise, pour ceux qui pourraient le penser qu'il est allemand, non, il est italien.
Mais oui.
Johannes Hieronymus Kasperger. Pas facile à prononcer. John Dolande, c'est plus simple. Et donc, il y aura du Henry Purcell. Voilà, alors on va rappeler aussi que Thomas Dunford a fondé l'ensemble Jupiter, qu'on a entendu il y a 2 ans, je crois maintenant, à Toulouse.
Oui, absolument.
Dans la saison des Arts Renaissance, c'était à Saint-Pierre-des-Cuisines d'ailleurs. Et le hasard fait qu'il se produit avec l'ensemble Jupiter le samedi 7 octobre à 20h30 à Montauban, au Théâtre Olympe de Gouges, dans le cadre du festival Passion Baroque. Il se plaît dans notre région, Thomas Dunford. Tant mieux pour nous, pour vous donner un aperçu du grand talent et de la superbe sonorité de Thomas Dunford. Nous allons l'écouter jouer au luth la toccata numéro 6 de Johannes Hieronymus Kasperger. La toccata numéro 6 de Johannes Hieronymus Kasperger, jouée par Thomas Dunford. Et c'est une des pièces du programme que joue le jeune luthiste français dimanche 5 mai à 17h à la chapelle des Carmélites pour le dernier concert de cette très belle saison Toulouse Guitare 2023-2024. Avant de terminer cette émission, il nous reste quelques minutes. Il y a 2 concerts à vous annoncer dans les jours à venir, même 4 en fait, puisqu'il s'agit de programmes donnés 2 jours de suite. Tout d'abord, c'est samedi 16 septembre à 20h30 et dimanche 17 à 18h30 à Toulouse, concert du chœur Les Conférences Vocales à l'église Saint-Exupère sous la direction de Laetitia à Toulouse, avec un programme très original parce que très contemporain, Serge.
Mais oui, alors c'était vraiment une expérience qui se veut originale et immersive, puisque le chœur évolue dans le public, donc, et bon, en plus il y a une chorégraphie qui est mise au point par la danseuse et chorégraphe Lorraine Coquillat, Et donc, voilà, un concert très original, avec des œuvres bon, que l'on va découvrir, hein, vraisemblablement, lors de ce jour-là. Alors, c'est donc le samedi 16 septembre à 20h30 et 17 septembre à 18h30 en l'église Saint-Exupère, près du Jardin des Plantes.
Voilà, oui, un lieu magnifique aussi, très, très, très agréable, très adapté pour cette musique de chœur. Le programme est intitulé Infinity, sans doute composé d'une infinité d'œuvres de compositeurs contemporains et souvent internationaux. Oui. Voilà, Laetitia Toulouse, on l'avait reçue il y a quelques années, au moment où elle avait créé d'ailleurs ce chœur, les conférences vocales. Elle a été formée en partie au CRR de Toulouse, qui va bien avec son nom de famille d'ailleurs. Mais je crois qu'elle est originaire de Tarbes et que maintenant elle évolue entre Avignon et Toulouse. Bon, on n'a pas le temps de passer un extrait, c'est dommage. On va annoncer les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, qui reprend sa formule de concert mensuel à Saint-Pierre-des-Cuisines. L'escale de Tournefeuille, à Saint-Pierre-des-Cuisines, concert les lundis 18 et mardi 19 septembre, puis à l'escale les mardis 26 et mercredi 27, quatre concerts qui commencent à 20h30. En ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby en France et le programme a été sous-titré French Flair, Serge.
Oui, oui, absolument, avec des compositeurs tous français. Alors ça va de Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier, André Campras, jusqu'à Berlioz, Bizet, et même Léo Delibes. Donc voilà, là aussi, une ouverture tous azimuts dans un style musical qui va du premier souper du roi de Jean-Baptiste Lully à la valse de Coppelia et le duo des fleurs de Léo Delibes.
Voilà, c'est un très très joli programme français, d'où le titre French Flair, avec ce petit clin d'œil au rugby en cette période de Coupe du Monde. Eh bien, cette émission est terminée. Alors, je rappelle donc les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Lundi 18 et mardi 19 septembre, à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis à l'Escale de Tournefeuille, mardi 26 et mercredi 27, tous à 20h30. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Je remercie chaleureusement Serge Chosy et Gaël Garcia d'avoir participé à cette émission. C'était la première pour Gaël. Et bien, j'espère que vous aurez l'occasion de revenir. Je rappelle que la saison Toulouse Guitare commence les 6, 7 et 8 octobre avec trois concerts à Saint-Pierre-des-Cuisines, donnés par Lorenzo Micheli le vendredi 6, Thibaut Garcia le samedi 7 et les jeunes guitaristes de la nouvelle génération le dimanche 8. Tous les renseignements, les réservations et la billetterie sont disponibles à l'adresse www.toulouseguitare.fr. Je signale de nouveau que le CD de Thibaut Garcia, El Bohemio, paraît le 22 septembre sous le label Erato Warner Classic. Pour les concerts du chœur, les conférences vocales à l'église Saint-Exupère de Toulouse, samedi 16 septembre à 20h30 et dimanche 17 à 18h30. Les renseignements et les réservations sont à faire en ligne sur le site www.conférencesvocales.com. Et je rappelle enfin que Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 29 septembre. Il reste encore beaucoup de beaux concerts dans la programmation. L'adresse du site internet du festival est www.pianojacobin.com. Tous mes remerciements à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Merci d'être toujours fidèle chaque mardi à l'écoute de Mélomanie. Très bonne semaine musicale à tous.